1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment l'organisation spatiale du champ urbain interfère avec la répartition des catégories sociales dans les villes, plus généralement ce qu'on appelle la ségrégation sociale. La ségrégation sociale, c'est une notion ancienne qui renvoie à des regroupements dans l'espace des villes, des familles, des clientèles dans l'Antiquité, des castes dans le système social indien, ou bien à des regroupements d'activités comme ceux des corporations dans les villes du Moyen-Âge. Et on distingue des ségrégations en quelque sorte spontanées, mais toujours relayées par des institutions, et des ségrégations plus fortes qui sont soutenues par des dispositions légales, comme par exemple celle qui a prévalu longtemps en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid, créant à la fois des townships dans des villes à distance très étendue, très lointaine du centre des villes blanches, pour reléguer les populations noires, et également dans des États qu'on appelait les Bantoustans. Alors, la ségrégation géographique, ce n'est pas toute la ségrégation sociale, ce n'est pas complètement synonyme puisque les populations sont mobiles et en même temps, elle a pris au cours de l'histoire des formes assez différentes. C'est le géographe allemand Kohl qui avait schématisé ainsi la transformation d'une ségrégation verticale dans l'espace des villes en fonction de la hauteur des immeubles, puisqu'on avait les boutiques au rez-de-chaussée, des étages bourgeois dans les premiers étages et les ouvriers dans les étages élevés, voire les petites chambres de bonne tout en haut, autant où il n'y avait pas d'ascenseur. Et à partir du milieu du 19e siècle, avec l'invention des tramways et puis plus tard celle des ascenseurs, cette ségrégation verticale va devenir horizontale, en coupe, en projection. Vous avez là les auréoles qui se dessinent d'une répartition des catégories sociales qui se fait en fonction de la distance au centre des villes et qui a tendance à reléguer dans les nouvelles villes industrielles notamment les populations les plus pauvres, ouvrières, dans la périphérie des faubourgs. En fait, ce dispositif a été analysé de manière extrêmement précise et détaillée, notamment par ce qu'on a appelé l'école de Chicago en sociologie urbaine. Et les géographes ont complété ce travail en repérant par des analyses multivariées comment les différents indicateurs qui permettent de différencier la population en fonction du revenu, du niveau d'éducation, des catégories socioprofessionnelles, en fonction de l'âge, en fonction du nombre d'enfants et un nombre considérable de variables, eh bien, elles avaient tendance à se regrouper dans l'espace des villes pour constituer trois facteurs d'analyse multivariée, c'est-à-dire trois ensembles de variables corrélées, les unes décrivant le statut socio-économique des populations, la seconde constituant ce qu'on a appelé la description du cycle de vie ou du statut familial, et la troisième concernant le statut ethnique défini par les appartenances raciales ou religieuses de sous-populations. Les géographes américains ont schématisé ces dispositions. Ici, nous avons une représentation iconique extrêmement simplifiée, donc qui, autour du centre des affaires, Central Business District, repère quelques ghettos localisant des immigrés de fraîche date qui se regroupent par nationalité, puis un statut familial qui, lui, donne lieu à des auréoles concentriques, avec les petits ménages au centre et les grands en périphérie, et également un statut socio-économique qui a tendance à s'organiser en secteurs, le tout superposant bien sûr pour constituer l'espace social de la ville. Olivier Finance a effectué sur des districts urbains dans la région de New York, une analyse multivariée qui lui a permis de retrouver ces trois principaux facteurs d'organisation des catégories sociales, avec notamment un premier facteur qui reflète le statut socio-économique, avec une organisation un petit peu sectorielle. Le relief de la ville et les fleuves permettent toutefois de repérer un secteur très riche, évidemment, dans le sud de la péninsule de Manhattan, prolongé ici à Staten Island. Donc on a effectivement un effet de secteur, alors que nous avons un secteur pauvre qui s'esquisse plus au nord en allant vers Harlem. Et puis sur la deuxième carte, vous repérez facilement une organisation en auréole concentrique des variables qui décrivent le cycle de vie, la position des personnes dans des ménages dans le cycle de vie. Et sur la troisième carte du troisième facteur, nous avons une disposition en tâches qui correspondent aux principaux regroupements ethniques à l'intérieur de la ville de New York et de ses satellites périurbains, qui sont pour l'essentiel des Chinatown. Qu'en est-il pour nos villes européennes qui, en principe, d'abord n'ont pas connu de ségrégation légale aussi durable qu'aux États-Unis et qui ont par ailleurs des histoires urbaines beaucoup plus longues, donc éventuellement avec davantage de mélange des populations? Eh bien, sur une grande aire urbaine comme celle de Paris, nous avons en fait un modèle sectoriel qui se dessine, qui se lit très bien, avec en rouge des quartiers riches identifiés par l'analyse factorielle, donc avec un regroupement de nombreuses variables, mais qui décrivent ces situations d'aisance pour des populations localisées dans les arrondissements centraux 7e, 16e et qui se prolongent dans la banlieue ouest, sur les bords de la Seine, en intégrant Versailles. Et puis, à l'opposé, nous avons vers le nord-nord-est, le long du canal de l'Ourcq, des quartiers beaucoup plus pauvres, où les logements ont moins de valeur, où les populations ont un niveau de vie plus faible et d'éducation plus bas. Et entre ces deux extrêmes, des transitions qui se manifestent par des mosaïques de couleurs, mais des organisations qui restent, comme vous le voyez, à peu près sectorielles. Alors, sur cet hexagone très schématisé qu'a dessiné Marcus Schwab pour englober les villes françaises qu'il a passées au crible de ces modèles, nous retrouvons, vous le voyez avec beaucoup de nuances et beaucoup de variations, des esquisses de modèles sectoriels pour le statut socio-économique, mais c'est loin d'être aussi régulier que dans le cas d'une très grande agglomération pour Paris, où finalement c'est la dimension spatiale de l'organisation urbaine qui gomme toutes les petites aspérités locales qui autrement, dans des villes de moindre importance, signaleraient un quartier plus riche lié à la berge d'un fleuve, à une colline ou à d'autres aménités de site. En revanche, dans toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants en France, on trouve l'organisation concentrique centre-périphérie des petits logements au centre vers les grands logements en périphérie que suivent les catégories d'âge de la population, plus âgées au centre et plus jeunes en périphérie, dans la mesure notamment où ce sont les familles nombreuses que l'on trouve dans ces espaces périurbains, dans des logements plus grands. Et Marcus Schwab le retrouve bien sur cette carte schématique de la France où, vous le voyez, le dispositif auréolaire est la règle pour ce regroupement des variables caractéristiques du cycle de vie. Il n'y a pas que des catégories socio-professionnelles ou économiques ou d'âge qui peuvent identifier des sous-ensembles de populations qui se regroupent par proximité. Nous avons également une recherche de l'entre-soi qui peut se manifester pour des comportements différents, comme ceux des populations homosexuelles, représentées ici par degré de concentration en rouge dans les quartiers de San Francisco. Vous le voyez, ce sont des quartiers très précis qui sont ciblés, comme celui de Castro, et cela aussi bien pour les populations homosexuelles féminines que masculines. On a d'ailleurs interrogé les populations homosexuelles sur leur représentation des lieux où on pouvait manifester ses préférences dans l'espace public. Et vous voyez que la norme sociale est intériorisée au point que c'est bien à Paris, le quartier du Marais et ses environs qui apparaissent comme les lieux où on peut effectivement donner ce type de représentation dans l'espace public. Alors, le jeu de la proximité vaut également pour les transformations au cours du temps l'espace des villes. Nous avons là une représentation graphique de la théorie de Nigel Smith sur le rent gap, l'écart de rente, qui est une explication pour le processus de gentrification, c'est-à-dire d'embourgeoisement de certains quartiers urbains, qui va s'opérer dans la mesure où le prix des immeubles se déprécie considérablement avec le temps, et donc le prix, la rente qu'on peut retirer de ces constructions, de ces localisations, diminue avec la valeur immobilière des immeubles, si bien que la rente qu'on pourrait tirer du sol en fonction de sa localisation a tendance également dans la réalité à diminuer au cours du temps, alors que logiquement, il existe un potentiel pour qu'elle augmente en fonction de la localisation, souvent la localisation plus centrale, au moins dans les villes européennes. Et c'est ce qu'a bien repéré Anne Clerval dans la carte qu'elle a dressée du front de gentrification à Paris, qui, à partir de situations initiales de quartiers riches à l'ouest et au sud-ouest, vous le voyez, progresse au cours de ces années en direction du nord et de l'est, avec dans des quartiers où jusque-là existaient des concentrations de populations pauvres et de populations étrangères. Et ce qui est assez magnifique, c'est qu'une carte récente de la variation des prix immobiliers montre à quel point ces transformations se produisent aussi de proche en proche, puisque nous avons en vert foncé les lieux, les arrondissements où les prix ont le plus augmenté au cours des deux dernières décennies. Et vous voyez que ça se situe précisément dans ces arrondissements 17e, 18e, 19e, où le front de gentrification actuellement est le plus actif. Certes, nous demeurons dans l'organisation du champ urbain avec des prix qui, malgré tout, en nombre absolu, restent plus élevés, comme c'est indiqué par les chiffres sur la carte, dans les arrondissements du 7e, 16e, comme c'est le cas depuis très longtemps. Voilà donc une nouvelle manifestation des effets de proximité d'une manière spatiale, là où les considérations sociales importent, mais vous le voyez, elles intègrent cette composante de la proximité pour se manifester dans l'espace des villes.